franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Une revue de presse à l'envers ce matin.
Oui, que je vais quand même essayer de vous lire à l'endroit. En fait, plusieurs articles ce matin qui prennent le contre-pied, ou plus exactement, qui présentent un contrepoint à ce qu'on lit habituellement. Par exemple, Whirlpool. Les syndicats de l'usine d'Amiens ont été reçus à Matignon hier pour en savoir plus sur le plan social qui les attend depuis qu'ils ont appris la délocalisation de leur activité en Pologne et sur les repreneurs éventuels. Ils sont rentrés quasiment bredouilles, nous dit le Figaro, avec la simple promesse d'une commission de suivi. Contrepoint maintenant, Maja Zoltowska s'est rendue pour Libération à Łódź, en Pologne, là où Whirlpool a décidé de délocaliser sa production de sèche-linge. Parole d'ouvriers polonais. Les salariés d'Amiens, on est désolé pour eux, disent-ils, mais on n'y est pour rien dans cette histoire, c'est le marché libre, la mondialisation qui fait tout. Un des ouvriers polonais de Whirlpool ajoute « Bah nous, on aimerait bien gagner ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils gagnent à Amiens. À Łódź, le salaire de base est de 377 euros. » Chacun se souvient ici que dans les années 90, après la thérapie de choc suite à la chute du communisme, les usines tombaient une par une en Pologne. Ce n'étaient pas 290 salariés comme à Amiens aujourd'hui qui se retrouvaient au chômage, mais 2000, 3000 du jour au lendemain. Et personne en Europe pour s'apitoyer sur notre sort. Une revanche donc ? Non, c'est pas si simple, car dans ce jeu de la concurrence libre, Łódź découvre à son tour ses propres concurrents, les travailleurs ukrainiens qui débarquent en masse et pèsent sur l'augmentation de leur salaire. Histoire de point de vue donc ce matin dans Libération, Amiens qui pleure sa désindustrialisation, Łódź en Pologne qui se remet de la crise grâce à ses réimplantations, jusqu'à ce que Whirlpool et les autres mastodontes découvrent que la Bulgarie puis la Roumanie soient encore meilleurs marchés que nous, craint déjà un syndicaliste polonais.
Autre contrepoint ce matin, celui que peuvent offrir des candidats en campagne.
Oui, depuis quelques semaines, tous les candidats se pressent à la rencontre des vrais gens. Passage obligé d'une campagne présidentielle, le magazine du Monde M en fait son dossier ce matin. Zineb Drieff a eu l'idée de faire le voyage inverse, partir à la rencontre de ses électeurs qui ont vu les candidats défiler. Alors elle s'est posée dans la région des Hauts-de-France, région commode, dit-elle, pour les candidats, à portée de train, la France qui souffre, la France d'en bas, la France qui vote FN, la version tricolore de l'Amérique de Trump. Alors qu'ont retenu ces vrais Français d'avoir croisé ces vrais candidats ? L'impression souvent d'avoir vu une comète, dit une dame d'Hasbrook, des voitures noires, vitres teintées, une traînée de caméras. La comète cette fois, c'est Emmanuel Macron qui à Neuilly-les-Mines s'intéresse à la réhabilitation des cités minières. Jannick a accepté de le recevoir chez elle. Bah oui, lui ou un autre, ça la gênait pas, dit-elle, s'il veut voir comment on vit. La toiture jamais refaite, le chauffage qui coûte cher, les murs qui s'effritent. Quand le candidat est arrivé, elle a répondu un petit peu impressionnée à ses questions. « Vous attendez quoi des travaux ?»« Bah tout, faut tout refaire. » Et puis il est parti vers d'autres maisons. Elle dit « On a parlé, sans plus quoi. » Mais ça a suffi pour qu'elle le trouve sympathique, même si ses propos rapportés par la presse locale ensuite sur l'alcoolisme et le tabagisme qui se sont peu à peu installés dans le bassin minier, aurait dit Macron, l'ont mise en boule après coup, Jannick. Bah n'empêche, ça lui a quand même donné envie de voter, tout ce charivari, jusqu'à là, elle n'en voyait pas bien l'utilité. La vie change pas, si, répète-t-elle, détournant au passage le vieux slogan socialiste « Changer la vie ». Alors chez ces électeurs visités, on croise des fondus de Macron, de Mélenchon, d'Hamon ou de Le Pen. On croise ceux que la caravane médiatique indiffère. Une France groggy par la pauvreté et la tristesse, dit Zineb Drieff. Mais beaucoup parmi eux gardent de ces quelques minutes avec les uns et les autres le sentiment qu'à un moment, on leur a porté de la reconnaissance. On leur a dit qu'ils comptaient. Julien dit qu'il devrait venir les voir plus souvent, les politiques. Et pourquoi pas, soyons fous, même hors période électorale.
On poursuit la revue de presse des contre-pieds avec le dernier gaucho qui n'est pas forcément celui qu'on attend, Hélène.
Eh oui, le dernier gaucho, c'est le titre qui claque ce matin à la une de Courrier International et qui ne parle pas de Mélenchon, de Poutou ou d'Artaud, mais du pape. Dessin du pape qui se dévoile sous sa soutane blanche en Superman, point levé. 4 ans après son élection, dit l'hebdomadaire, le pape François apparaît comme le seul vrai leader proche du peuple. Fin mars, le site d'information italien L'Inchiesta a même célébré un homme qui serait le dernier à nous proposer un futur engageant, une vision du monde humaine et solidaire dont feraient bien de s'inspirer les hommes politiques. Mais il y a un contre-pied à ce panégyrique tout aussi intéressant et c'est dans le même journal, Courrier International, qui publie également un article d'El País dans lequel le journaliste défend la thèse inverse que le principal mérite de François, c'est d'avoir tout changé sans avoir rien fait. exercice de prestidigitation, dit-il, qui repose sur la dévotion d'une société crédule portée à la sensiblerie. François est perçu comme révolutionnaire, sans avoir changé d'un iota la doctrine de l'Église, sur le droit des homosexuels, la place des femmes dans l'Église ou encore le droit à l'avortement. Ce qu'il a accompli, poursuit le journaliste, c'est une révolution des formes, une catharsis des apparences qui a donné lieu à un néologisme, le papulisme. François est le pape de Podemos, de Maduro et de Kirchner. François est un libertador du capitalisme, un porte-drapeau du mouvement écologiste. François encourage en fait nos simples aspirations élémentaires, la paix et l'amour. François est tout, il ne serait donc rien. L'ère du papulisme, le populisme papal. Donc,
papulisme.
Ouais, je ne connaissais pas contre-pied à lire dans Courrier International.
On termine, Hélène, par une personnalité qui incarne à elle seule la figure du contre-pied.
Et on parle de Donald Trump, dont toute la presse relève ce matin les virages stratégiques en matière de politique étrangère, comme l'écrit le Parisien. Willem, dans Libération, le dessine avec sa tête qui virevolte à 360 degrés entre Poutine et Xi Jinping. Alors, petit cadeau ce matin pour ceux qui n'ont pas encore entendu ou vu la vidéo du président américain racontant à Fox News la façon dont il a informé le président chinois de l'attaque américaine sur la Syrie la semaine dernière. C'est à retrouver sur le site Brut. Dîner présidentiel, on en est au dessert devant un énorme gâteau au chocolat.
And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. And I said, Mr. President, we've just launched 59 missiles heading to Iraq.
Well, you headed to Syria.
Yes, heading toward Syria.
Missile sur l'Irak, c'était la Syrie. Trump se souvient mieux du meilleur gâteau au chocolat jamais mangé du pays visé.
Il en parle 3-4 fois dans la séquence de l'interview du gâteau au chocolat.
Apparemment, le gâteau devait être dingue parce qu'il parle que de ça. J'avoue, c'est pas forcément un contre-pied, c'est plutôt de la gourmandise, à moins que ça ressemble vaguement à de la désinvolture, voire à de l'incompétence.
Merci à vous, Hélène Juan, pour la revue de presse. Et puis, si vous devez rassurer votre voisin qui n'a peut-être pas eu le temps de lire encore les journaux, c'est Thierry Frémaux. L'accueil est plutôt bon de la sélection de Cannes dans la presse.
Très bon, hein. Pas de critique encore. Ça pourrait venir, mais il n'y en a pas.
Ça pourra venir. On verra ça tout à l'heure. Merci à vous, Hélène Juan.